Bonjour, c'est Anne-Elisabeth et vous écoutez C'est à vous, un podcast de France Télévisions. Bonne émission. C'est à vous, très heureuse de vous retrouver en direct jusqu'à 20h50 avec toute l'équipe. Salut à tous les quatre.
Bonsoir Elisabeth.
Émilie sera de retour demain, on l'embrasse. Mohamed, quelle est votre story du jour?
Un anniversaire ce soir, 3 ans, il y a 3 ans, les gilets jaunes voyaient le jour sur les ronds-points en France. 3 ans après, on en est où?
Mathieu, dans votre 5 sur 5.
Cette semaine se tient le congrès des maires de France. Alors on est parti à la pêche au parrainage.
Alors que le nouveau président de l'association des maires de France a été élu, c'est David Lisnard.
Le maire Les Républicains de Cannes, oui.
Brillamment élu.
Plus de 60% des intentions. Plus de 60% des voix. Pierre, votre œil ce soir.
Demain, une vente aux enchères s'ouvre pour plusieurs jours. On va mettre en vente 750 objets et œuvres ayant appartenu à Juliette Gréco. Et au milieu de cette collection, une toile signée Serge Gainsbourg, vous l'apercevez, il n'y en a que 3 ou 4 encore, alors qu'il en a peint des dizaines et des dizaines.
Il les a brûlés, les autres.
Il a brûlé, parce qu'il se considérait comme un piètre peintre. Patrick, votre édito ce soir.
5e vague de Covid, mais l'histoire ne se répète pas exactement de la même façon.
On en parle avec notre invité, le professeur Gilles Pialou, infectiologue à l'hôpital Tenon. À Paris, qui est notre invité ce soir, Bernard Lavilliers, lui, dîne avec nous à l'occasion de la sortie de son 22e album, le magnifique Sous un soleil énorme. Julien Bugier, le présentateur du 13h de France 2, sera également notre invité. Tout ça autour d'un agneau de Haute-Provence, cuisiné en ce moment même par Nicolas Bottero, notre chef étoilé de la semaine, du Mât Bottero, à Saint-Cana, aux côtés d'Aix-en-Provence. Salut Nicolas.
Bonsoir Babette, bonsoir à tous. C'est effectivement une épaule d'agneau confite et croustillante, accompagné d'une déclinaison de carottes et de tempura de feuilles de sauge.
Merci beaucoup, cher Nicolas.
Merci à vous.
Tout à l'heure. L'édito de Patrick Cohen. La France, comme toute l'Europe, affronte une 5e vague de Covid.
Oui, et comme l'an dernier, l'épidémie était au plus haut en novembre, à peu près à la même époque, avec l'Europe comme épicentre, 60% des contaminations mondiales, mais pas partout avec la même intensité. L'Europe de l'Est est la plus touchée, particulièrement en Bulgarie et Roumanie. La vague a gagné ensuite les pays du Nord, Danemark, Pays-Bas, Allemagne, tandis que le bassin méditerranéen, sauf la Grèce, voit l'épidémie repartir plus doucement. En France, on a repassé hier le cap des 20 000 contaminations par jour, pour la première fois depuis la fin août, pour une moyenne de 11 000 sur les 7 derniers jours. En Allemagne, c'est 4 fois plus.
Qu'est-ce qui explique ces différences?
Alors, 3 facteurs. La météo, le froid qui nous pousse à nous confiner naturellement et à nous contaminer est un facteur aggravant, d'où ce contraste nord-sud. Les restrictions, les mesures de contrôle, les passes sanitaires, les pays restés les plus stricts comme la France et l'Italie sont moins touchés. Les autres, et on en a parlé ces derniers jours, certes à nouveau la vis. Et puis bien entendu, en premier lieu, la couverture vaccinale qui fait que l'automne 2021 ne sera pas le remake de 2020. Les contaminations flambent, mais les décès ne suivent pas le même rythme. En Europe, sur 7 jours, 23 décès par million d'habitants. L'an dernier, fin novembre, 56 par million.
La vaccination qui ne progresse quasiment plus en France.
Non, il reste un peu plus de 6 millions de Français qui ne sont pas du tout passés à la piqûre sur 58 millions de personnes éligibles, les plus de 12 ans. 1 sur 10, donc insensible aux appels médicaux ou officiels. Cette fois, contrairement au mois de juillet, il n'y a pas eu d'effet Macron après sa dernière allocution. 17 000 premières doses en moyenne chaque jour. En ce moment, ce n'est pas beaucoup. Ces 6 millions de réfractaires se répartissent de façon assez homogène en âge. 1 200 000 adolescents, donc entre 12 et 18 ans. Un peu plus d'un million de trentenaires. 900 000 quarantenaires. Au-delà, la couverture est meilleure, mais 500 000 personnes âgées de plus de 80 ans n'ont toujours pas reçu d'injection.
Mais les vaccins ne suffisent pas.
Non, cri de victoire des anti-vax avant-hier à la vue de ce graphique de la DRES, la direction de la recherche du ministère de la Santé, qui montre que les hôpitaux ont accueilli fin octobre pour Covid davantage de vaccinés que de non-vaccinés. Vous voyez que les courbes se croisent à la toute fin, ce qui ne dit pas grand-chose en réalité de l'efficacité des vaccins puisque les populations ne sont pas comparables. Il suffit de retenir que les vaccinés sont 9 fois plus nombreux que les non-vaccinés et que malgré cela, il y a en proportion 9 fois plus d'entrées en soins critiques de non-vaccinés et 9 fois plus de décès. Cela dit, l'efficacité des vaccins recule avec le temps. C'est vrai, il y a un déclin progressif de la protection vaccinale, d'où la nécessité des rappels.
Bonsoir, professeur Gilles Pialou.
Bonsoir.
Chef du service des maladies infectieuses à l'hôpital Tenon. Et vous venez masquer ce soir. C'est le signe le plus symbolique que cette cinquième vague est bien une réalité. Qu'elle est là, quoi.
Non, comme j'ai été classé ayatollah du masque, je ne peux plus l'enlever. C'est une première raison. La deuxième, effectivement, c'est que je ne savais rien de mes voisins et de leur passe sanitaire. Et puis la troisième, c'est que c'est la pédagogie. Parce que ce qu'a oublié Patrick, dans ce qui est rare, dans sa comparaison de l'Europe, c'est d'avoir des marqueurs de mesures barrières et de la façon dont on le fait, par exemple, avec l'étude en France de Covipref, comment on a baissé un peu les mesures barrières. Mais la France a quand même moins baissé que certains pays, dont
l'Allemagne.
Mais
elle l'a baissé, c'est-à-dire qu'on ne fait plus attention. On porte moins souvent le masque, on l'oublie plus. Les restaurants sont moins vigilants, moins exigeants, c'est ce que disait notamment
tout
le professeur Delfraissy.
Et le président de la République,
d'ailleurs.
On contrôle
moins le pass sanitaire.
On contrôle moins le passe sanitaire, on a plus de rapprochements, on a plus d'embrassades, de portées de main. Il y a une étude, hein, que je vous l'ai dit, de Covipref, qui montre très bien cette courbe. Alors, on est à 60% encore de ces mesures fin octobre, alors qu'on a été monté à 80%, hein, en ce qui concerne le masque dans l'espace public, les serrements de main, les embrassades, le fait d'être plusieurs regroupés dans un lieu non aéré, etc. Et je pense que voilà, ça fait partie des éléments qui discriminent en Europe. Et puis je voulais quand même revenir sur le diagramme, le dernier diagramme de Patrick. J'ai fait ma chronique dans l'Express là-dessus parce que oui. il faut que les Français entendent que quand il y aura 100% de vaccinés, il y aura 100% des gens dans les hôpitaux qui seront vaccinés et malades. Pourquoi ? Enfin, 100% des gens malades seront vaccinés, si tout le monde est vacciné, puisque c'est un vaccin qui ne protège pas à 100%.
Qui protège à 50%, on peut dire.
Ah, ça dépend, la contamination. Non. Là, on parle des formes graves, il protège à 95-96%. Les données de Santé publique France, là, qui sont tombées avant-hier, montrent très clairement que dans la troisième vague, dans les EHPAD, sur les personnes âgées de plus de 75 ans, ce qui est quand même jeune, on a des taux de protection de 80%. Protection de l'hospitalisation des formes graves et des décès de 94 à 96%. Donc ça, c'est un truc qui est très incitatif à se faire vacciner. Et il a raison de rappeler qu'il faut, appeler les millions de gens qui ne sont pas vaccinés à se faire vacciner. Le problème de la troisième dose est un autre sujet. Les 6 millions qui s'affichent sur l'écran sont vraiment à aller chercher.
Donc, faire très attention à ne pas mal interpréter ce chiffre de il y a autant de non-vaccinés que de vaccinés hospitalisés.
Voilà, exactement. On l'a dit en Israël.
C'est en admission.
Oui, c'est en admission, mais on l'a dit en Israël. On l'a dit en Angleterre, et le truc, la fake news, c'est de dire, regardez, en Allemagne, c'est incroyable, plus ils ont de vaccinés, plus ils ont de cas. Mais c'est une mécanique pour un vaccin qui n'est pas efficace à 100%. Là, quand vous dites 50%, pour replacer le chiffre, c'est plutôt ce qu'on évalue sur le taux de diminution de la contamination.
C'est ce que vous disiez aussi dans votre papier de l'Express, c'est que, OK, il y a une cinquième vague, il y a surtout une cinquième vague de la fake news, et vous prenez toute une série de chiffres soit mal interprétés, soit manipulés, notamment le taux d'incidence. Certains rassuristes n'hésitent pas à dire que le taux d'incidence n'est que de 100 pour 100 000 habitants, soit 0,01% de Français infectés par jour, ce qui est rien comparé aux mesures de restriction. Tout ça pour ça, en gros.
Ben oui, mais le problème, c'est qu'on est, on est à 20 mois, ça fait 20 mois qu'on explique. Et je prenais l'exemple de Mme Merkel, qui a expliqué dans une conférence de presse que c'était qu'une exponentielle, c'est-à-dire que c'était le temps de doublement. Le plus important, c'est pas le chiffre, c'est comment il était la semaine d'avant. Et quand vous prenez la semaine par exemple, du 1er au 7 novembre, vous avez 42% d'augmentation de l'incidence, alors qu'on est à 23 la semaine d'avant. Et c'est évidemment ça, parce qu'il n'y a pas besoin de faire des mathématiques de troisième cycle pour comprendre que, évidemment, ça fait une projection très rapide vers l'augmentation.
Autre chiffre qui sème le trouble et qui mérite une explication, le Covid n'est responsable que de 2% des hospitalisations en 2020, chiffre repris par Marine Le Pen, candidate RN à l'élection présidentielle.
En 2020, au cœur de l'épidémie, 2% des hospitalisations étaient dues au Covid.
2%, ça peut paraître insignifiant au regard des mesures prises. Confinement, passe sanitaire, obligation vaccinale des soignants, sauf que pour vous, c'est une manipulation.
Tout est discutable, y compris les chiffres, contrairement à ce qu'on dit sur les réseaux sociaux. Et c'est, ce chiffre-là, pris isolément, n'a pas de sens. Pourquoi il n'a pas de sens? Parce qu'il est lissé sur l'année. Prenez le mois de janvier 2020, c'est l'année 2020. Est-ce qu'il y avait des cas de Covid dans janvier 2020? La réponse, c'est non. Donc déjà, vous avez un mois qui ne compte pas. Vous faites la moyenne sur 12 mois, première chose. Deuxièmement, c'est lissé sur les régions. Donc vous comprenez bien qu'il n'y avait pas les mêmes cas en Bretagne que dans le Grand Est ou que dans les Hauts-de-France ou qu'en Île-de-France. Troisièmement et plus important, c'est lissé sur les services. Et il y a quand même peu de Covid qui arrive directement en gynéco-obstétrique, en chirurgie, tout ça. Donc c'est aberrant, c'est-à-dire que le chiffre en soi est vrai. Et quand vous regardez le rapport, parce que les gens, voilà, les gens, y compris les commentateurs, ne regardent pas le rapport. Le rapport vous montre très bien le pic. Et il y a des mois, par exemple le mois d'avril 2020, vous êtes à 18%. Et quand vous êtes à 18% de suroccupation du niveau, c'est là que les pouvoirs publics ont pris les bonnes décisions. Donc ce chiffre est un chiffre manipulé, idéologé, enfin je ne sais pas si on dit...
Idéologisé.
Oui. Idéologisé, et franchement les chiffres, il faut leur faire dire ce qu'ils peuvent dire et pas le contraire.
Pour lutter contre cette cinquième vague, plusieurs pays prennent des mesures visant spécifiquement les non-vaccinés. C'est ce que l'Autriche a fait en confinant les non-vaccinés. Pour vous, sur un plan médical, c'est pertinent, mais attention, il ne faut pas stigmatiser les non-vaccinés.
Oui, alors là, c'est vrai qu'on a tendance à couper ma phrase. J'ai dit, quand on m'a interrogé sur l'Autriche, j'ai dit que médicalement, ça avait un sens, puisque c'est essentiellement les non-vaccinés qui remplissent les services, même si ce n'est pas que. Il y a aussi des gens qui sont vaccinés, il y a des gens qui ont des comorbidités. Mais l'autre élément aussi, parce que voilà, tout d'un coup, c'est un lever de bouclier, c'est attentatoire aux libertés, enfin, on a la même musique, ce qui est vrai. Mais sachez quand même que les non-vaccinés sont déjà semi-confinés. Enfin, ils ont une privation de mouvement et de liberté.
Puisqu'ils n'ont pas le pass sanitaire.
Voilà, puisqu'ils n'ont pas le pass sanitaire. Donc, et vraiment quelque chose, puisque moi, je ne parle plus de vagues, parce que je ne compte plus les vagues, mais Patrick a parlé de la cinquième vague. On sait que la quatrième vague a été tamponnée, limitée, acceptable dans les services hospitaliers, sous l'effet du pass sanitaire et de la vaccination qui est entraînée par le pass sanitaire. Et ça, c'est indiscutable.
Est-ce qu'il y a d'autres mesures qu'il faudrait imaginer là, maintenant, pour essayer de contrôler cette cinquième vague? Pour l'instant, pas de confinement imaginé.
Tout sera fait pour éviter le confinement, pour plein de raisons, y compris la fortiori politique, du calendrier politique, et puis parce que les Français n'en peuvent plus. Ils n'en peuvent plus du masque, mais ils n'en peuvent plus du confinement. Donc évidemment, il y aura des mesures. Je pense qu'on va élargir progressivement l'obligation de la troisième dose qui rentre dans le pass sanitaire. Pour l'instant, ça a été un petit peu annoncé en filigrane du discours du président de la République. On va probablement élargir l'obligation vaccinale. Moi, c'est un avis, parce que je pense que cette obligation vaccinale est trop restrictive.
Il y a trop de métiers qui sont
en contact permanent avec le public et qui pourraient être élargis, comme le font certains pays. Et puis, il y a un autre élément, c'est de ne pas sortir du pass sanitaire, et là, je suis à contre-courant de ce qui a été décidé, mais c'est mon avis de clinicien, c'est de sortir du pass sanitaire. Le pass sanitaire, c'est trois éléments. C'est la vaccination, c'est le fait d'avoir été guéri, et le fait d'avoir une PCR négative. Et cette non-remboursement de la PCR a fait chuter le test.
Donc il faut le rétablir.
Il faut le rétablir. Et ça a fait chuter le test. Ça fait que le délai, Santé publique France l'a monté, entre les symptômes et le test s'est allongé, à peu près autour de 3 jours. Et surtout, on a perdu chez les personnes asymptomatiques 24% des tests.
Donc c'est passe sous les radars, quoi.
Ça passe sous les radars, effectivement. Et le dernier point, peut-être on en parlera dans le cours de l'émission, c'est qu'il y a les traitements qui vont nécessiter qu'on ait des tests rapides. Enfin, rapidement obtenus, puisque les traitements qui arrivent, là, dont on a parlé, les molécules de Pfizer ou de Merck, sont des traitements qui sont administrés dans les 5 jours. Donc si les gens ne sont pas dépistés, ils n'auront pas de traitement. Donc je pense qu'il faut tout rebattre les quatre.
C'est au nom de la défense des libertés individuelles que Nicolas Dupont-Aignan, lui aussi candidat à l'élection présidentielle, est à la fois anti-vax et anti-pass sanitaire. Regardez cette scène filmée par les caméras de C'est à vous. C'était à Colombelles, les deux églises, le 9 novembre dernier.
Je suis gravement malade et j'ai fait quand même la route pour venir vous voir.
Oh, c'est un amour. Je vous embrasse, on s'en fout du Covid.
Oh oui, de toute façon, je suis vaccinée. Alors même
pas moi, mais bon.
Ça fait rien, c'est pas grave. Je penserai à vous si je l'attrape.
Ça vous inspire quoi, cette séquence-là?
Ça me consterne. Mais ce n'est pas, voilà, c'est pas une prise de position politique. C'est parce que quand, voilà, quand vous gérez les malades, quand vous gérez les passages en réanimation, quand vous avez des patients... J'ai eu un patient dans un milieu médicalisé, très médicalisé de sa famille, de 75 ans, qui est arrivé directement aux urgences, passé directement en réanimation pour être intubé. Voilà, moi, c'est un sujet... Ça n'a rien à voir avec la politique. C'est un sujet avec lequel je n'ai pas envie de complaisante parce qu'on n'en est pas sorti, quoi.
Le « on voilà, s'en fout du Covid », c'est quand même une phrase qu'on entend de plus en plus.
Mais parce que les gens repoussent, ils en ont marre, je comprends parfaitement. Je veux dire, moi aussi, j'en ai marre. Je veux dire, moi, je sais faire plein d'autres choses. Non, je veux dire, dans la médecine, je voudrais m'occuper mieux de ce qu'on faisait, la prévention des infections sexuellement transmissibles, la lutte contre le VIH qui a été abîmée par la crise du Covid, m'occuper des personnes trans, je ne sais pas, et plein de choses, la tuberculose, les hépatites. Et je veux dire, on le fait, mais on le fait en plus de ce qu'on le Covid, franchement, ça, on en a marre aussi sur le terrain. Les infirmiers en ont marre aussi. Mais voilà, on reprend l'expression du président de la République, le virus, c'est maître du temps. Et on le voit bien encore dans cette... cinquième vague.
L'obligation vaccinale pour les soignants, c'est l'un des deux points qui secouent la Martinique et la Guadeloupe avec le pass sanitaire. Le mouvement des anti s'amplifie. On ne voit pas bien, comme on dit, la sortie de crise, d'autant que là, on parle de la santé des habitants comme des soignants.
C'est l'ensemble des travailleurs dans tous les secteurs d'activité qui sont mobilisés pour dire non à l'obligation vaccinale, non au pass sanitaire, oui à la liberté, oui aux droits, oui à la santé.
J'ai quand même deux enfants en bas âge à nourrir. Mon mari aussi est un hospitalier, donc nous sommes deux suspendus. Donc on fait comment ?
Ça va se généraliser petit à petit, hein. Ça va être toute la Guadeloupe, ça c'est sûr.
En Guadeloupe, seulement 33% des habitants sont vaccinés, contre presque 75% en métropole. Le président de la région Guadeloupe a dit sur France Info ce matin qu'il est lui-même contre l'obligation vaccinale. Il a tort de le dire ou il cède devant la majorité, si j'ose dire, chez lui ?
La situation des Antilles, enfin de Guadeloupe, Martinique, est dramatique. Ouais. Elle est dramatique, il y a plusieurs facteurs qui sont... ancestraux, si on peut dire. Il y a eu la crise du chloroquine et tout ça, il y a eu la défiance du pouvoir central, le fait que c'est une population aussi qui est plus à risque de formes de graves. Il faut le dire aussi, ça. C'est très compliqué. Moi, j'en discutais... vous savez qu'à l'assistance publique, il y a beaucoup d'Antillais. J'en discutais avec eux, qui sont dans mon service, évidemment, vaccinés. On est dans une situation où, finalement, ceux qui sont pris en otage, c'est les malades. D'une situation qui est complexe, effectivement, parce qu'il y a plus de facteurs de risque, il y a plus de défiance, plus de fake news. Prenez par exemple une fake news qui a circulé beaucoup aux Antilles, c'est le décès du fondateur de Cassav, dont on a dit, regardez, il a été vacciné, trois doses, donc c'est le vaccin qui ? Sauf que voilà, on a su après qu'il était immunodéprimé et que le vaccin n'avait pas de prise sur lui, comme on le sait parfaitement avec les gens immunodéprimés. Donc je pense que la situation aux Antilles est très complexe et va peser énormément sur la mortalité et sur la morbidité. Alors est-ce que la solution... C'est l'obligation vaccinale. Je ne sais pas vous répondre de ça. C'est une situation locale. Mais c'est vrai que les autorités locales ne nous ont pas aidés. Je rappelle, au début, la comité territoriale avait dit quand même qu'elle était contre le pass sanitaire et qu'ils étaient pour les médecines traditionnelles. Donc après, ils ont changé l'avis. Mais donc, il y a une situation très, très compliquée. Très, très compliquée, à mon avis, qui va s'aggraver rapidement.
Merci, Gilles Pialoux. Vous restez avec nous. On va continuer à évoquer l'actualité avec la story de Mohamed Bouafsi. Mohamed
Babette.
Il y a 3 ans, donc, commençait l'un des plus grands mouvements sociaux jamais vus en France, celui des Gilets jaunes.
Le 17 novembre 2018, le mouvement des Gilets jaunes voyait le jour. Des milliers de Français envahissaient les ronds-points de plusieurs communes. Un événement qui va bouleverser notre société.
L'appel des Gilets jaunes entendu, le ministère de l'Intérieur a recensé 3000 actions et 283 000 manifestants dans toute la France.
Un slogan scandé par ces habitants des zones périurbaines ou rurales qui souffrent surtout de ne plus réussir à boucler leur fin de mois.
On a de plus en plus d'impôts, de plus en plus de taxes et de moins en moins de services.
Je veux pouvoir payer autre chose à mes gamins que des pâtes et des pommes de terre.
Les doléances des Gilets jaunes étaient principalement dirigées contre le gouvernement de Emmanuel Macron, la réforme des retraites et celle de l'assurance chômage cristallisait les tensions, le prix de l'essence aussi. Les manifestants se plaignaient également du manque de services publics dans certaines communes françaises.
Nous, ici, en ruralité, c'est 38-40 kilomètres. Voilà. pour avoir du service public.
Christophe Delorme, agent de sécurité, veut nous montrer les services qui disparaissent autour de chez lui.
Donc c'est l'ancien bureau de poste donc de Nassandre.
De quoi la place ?
Rien du tout, ils ont juste réhabilité un tout petit logement, mais les locaux sont vides.
Un bureau de poste, mais aussi dans un mois cette maternité, ou encore ce centre des impôts. Ici, beaucoup d'habitants réclament moins de taxes et plus de services publics.
Des mairies ont trouvé la solution pour répondre à un autre problème, la désertification bancaire, notamment dans les zones rurales. Deux transporteurs de fonds proposent désormais des machines pour retirer de l'argent dans les villages dépourvus de banques, moyennement 15 à 20 000 euros d'installation et entre 800 et 1 800 euros de loyer par mois. Un distributeur de billets est installé dans la commune, un service qui séduit de plus en plus d'élus locaux.
Quand on a pris les commandes de la commune, eh bien, la première chose qu'on a fait, c'est justement de faire ce distributeur. Il fallait dynamiser un petit peu le centre-ville et ça, c'était l'occasion idéale.
Depuis un mois, est-ce que les habitants vous en parlent quand ils vous croisent? Qu'est-ce qu'on vous dit?
On ne me dit pas merci parce qu'on ne me le dit jamais. Mais on sent quand même qu'il y a du positif. Les gens sont satisfaits. Autrement, si ce ne serait pas le cas, là, je l'entendrais.
Tous les élus se disent pour l'instant satisfaits de ce service. En moyenne, on relève entre 1200 et 1500 retraits par mois. 150 machines ont d'ores et déjà été installées en France et ont permis de redynamiser les centres-villes. Ce distributeur évite aussi aux habitants de faire des longs trajets en voiture pour retirer de l'espèce. On parle quand même de 10 km en moyenne. Mais la crise des Gilets jaunes a laissé des stigmates chez les artistes aussi. Le quatrième album du rappeur Orelsan, baptisé Civilisation, est attendu vendredi. Le Normand a sorti un titre politique explosif aujourd'hui, L'odeur de l'essence, en référence à la crise des Gilets jaunes, dans lequel il prophétise le crash de la société.
Les jeux sont faits, tous nos leaders ont échoué. Ils seront détruits par la bête qu'ils ont créée. La confiance est morte en même temps que le respect. Qu'est-ce qui nous gouverne, la peur et l'anxiété? On s'auto-détruit, on cherche un ennemi. Certains disent c'est foutu, d'autres sont dans le déni. Les milliardaires lèguent à leurs enfants débiles.
Qui agite la haine, la nostalgie, la peur, la méfiance ou encore le désespoir. Un titre qui fait le buzz depuis quelques heures. Gilles Pialoux. La colère des Gilets jaunes sur la désertification des services publics, la disparition des médecins de campagne, des CHU de plus en plus éloignés des zones rurales, vous la vivez au quotidien, cette colère dans les hôpitaux aussi?
Non seulement je la vis, mais on l'a subi et ils ont raison. C'est une des équations de la cinquième vague. Hein. Ce n'est pas tellement l'ampleur de la vague, hein. C'est comment les digues vont tenir, parce qu'on a un hôpital public, ce n'est pas nouveau, évidemment, c'est 30 ans de gestion hospitalière, mais la crise était très forte. On a 40% des infirmières, selon le Conseil de l'Ordre, qui veulent changer de métier. On a remplacé les cellules de crise par des cellules de gestion de la pénurie du personnel. C'est la réalité de l'hôpital, en tout cas à la science publique. Ça a été confirmé par Martin Hirsch. On a une situation qui est tout à fait explosive. Et je pense qu'effectivement, la solution ne peut pas venir des décisions qui ont été prises à long terme. Hein. Je pense que, par exemple, la fin du numerus clausus, c'est quelque chose qu'on verra dans 5 ans ou 6 ans.
Et en attendant,
le Ségur, pour l'instant, n'a pas fait qu'on retient le personnel. C'est hallucinant. Hein. Et je pense que par rapport au début du mouvement des Gilets jaunes, ça s'est aggravé. Évidemment, ça s'est aggravé par le Covid. Et puis, ça s'est aggravé parce que c'est un phénomène qui continue à empirer malgré, effectivement, les 9 milliards qui ont été distribués dans le cadre du Ségur. Et je suis presque plus inquiet par la capacité de l'hôpital public, notamment dans les grandes villes, à tenir que par l'ampleur de la vague actuellement de Covid. Et la rencontre entre les deux, plus les infections hivernales, c'est cette équation qu'on va avoir à résoudre sur le terrain. Et je pense qu'il faut des prises de décision. Et plutôt que d'ironiser sur le Covid, je pense que les politiques, les responsables politiques devraient saisir la question de l'hôpital public comme une question centrale de cette campagne électorale. Et ce n'est pas de la politique, ça c'est juste de la santé publique.
Merci beaucoup, Mohamed Bouassi, à tout à l'heure pour
la réponse était un peu longue, mais
elle était très pertinente.
Il y a 5 ans, pour sauver la planète d'un réchauffement fatal, l'euphorie et l'émotion à l'issue de la COP21 à Paris.
J'ai une pensée particulière, enfin, pour tous ceux qui auraient voulu être là, en cette circonstance probablement historique, mais qui ont agi et lutté sans pouvoir connaître ce jour. Je n'entends pas d'objection. L'accord de Paris pour le climat est accepté.
Six ans plus tard, samedi à Glasgow, en conclusion de la COP26, la déception et l'embarras.
To all delegates, I apologize for the way this process has unfolded, and I am deeply sorry. I also understand the deep disappointment. But I think, as you have noted, it's also vital that we protect this package.
La COP26, rebaptisée Flop 26 par le quotidien Libération. À juste titre, on pose ce soir la question à l'ancien président de la COP21 et président du Conseil constitutionnel, Laurent Fabius, et ce soir notre invité. Bonsoir Laurent Fabius, bonsoir. Merci de votre présence ce soir.
Merci à vous.
Vous aussi, vous parlez de flop au sujet de ces accords de Glasgow et de cette COP26.
Jusqu'à présent, je ne me suis pas exprimé sur la COP26 parce que j'étais à Glasgow, mais j'ai voulu regarder les textes et puis j'ai voulu interroger mes collègues, anciens collègues, chefs de délégation, pour me faire un sentiment. Alors, il y a des réactions extrêmes. Madame Greta Thunberg a dit c'est blablabla. À l'autre extrême, Boris Johnson, qui est en général pas avare de superlatifs, a dit c'est un grand pas en avant. Bon, moi, ayant regardé tout ça de près, je reprendrai le mot que vous avez utilisé, c'est une déception. Ça ne veut pas dire que rien n'a été fait. Je peux en donner quelques exemples. Mais par rapport aux deux objectifs essentiels, qui étaient avoir des ambitions qui permettent de rester dans la zone 1,5 degré,
qui avait été fixé par la COP21.
Et sur l'autre aspect, qui est les financements, parce qu'on n'avancera pas s'il n'y a pas des financements, en particulier des pays pauvres, on n'y est pas. Donc, pour moi, le maître mot, qui veut dire qu'il va falloir agir plus et plus vite, c'est la déception.
Comment agir plus et plus vite? C'est-à-dire, comment maintenir la pression sur ces pays qui n'ont pas intérêt à freiner leur développement économique pour sauver la planète? Par exemple, la Chine, par exemple, l'Inde.
C'est la question de l'utilité des COP. Beaucoup de gens disent, mais puisque vous n'avez pas obtenu de grands résultats, ça ne sert à rien. Je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Pour revenir au grand succès de Paris, avant la COP de Paris, la tendance était entre plus 4 degrés et plus 5 degrés. Et maintenant, on est plutôt autour de 2,5.
2,7, selon l'ONU.
Donc, les COP, ça sert à quelque chose. Mais il n'y a pas de gouvernement mondial, c'est ça. Peut-être dans 50 ans, dans un gouvernement mondial, j'en doute. Et on ne peut pas mettre les dirigeants qui n'agissent pas comme il faudrait en prison. Donc, ce qui compte, c'est la pression. Alors, il y a la pression de l'opinion dans les démocraties. Là où il n'y a pas de démocratie, c'est la pression des pairs. Et ce qui me frappe beaucoup, c'est qu'un certain nombre de pays, de grands pays, font des projections sur le futur en disant voilà ce qui se passera en 2050, en 2070, etc. Mais quand on regarde ce qu'ils font à court terme, c'est pas du tout en ligne. Donc le maître mot maintenant, c'est contrôler, évaluer. Et Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, avec lequel en général je suis d'accord sur ces sujets, a dit, moi je vais faire des propositions pour qu'il y ait une espèce d'équipe qui regarde si c'est, le mot anglais n'est pas très joli, du greenwashing, c'est-à-dire de l'éco-blanchiment, ou si c'est réel. Et il faut de plus en plus qu'on s'intéresse pas seulement au combien...
Une police écologique mondiale, en quelque sorte, quoi. Enfin...
Oui, en tout cas, un contrôle et une évaluation, parce que le combien, c'est important, mais le comment, c'est très important. Et moi, ce qui me frappe en étudiant tout ça de très près, c'est que à long terme... Keynes disait en économie, à long terme, on est tous morts. Donc à long terme, il y a des grandes prévisions, etc. Mais si le court terme n'est pas rabouté au long terme, ça signifie rien. Donc il faut agir vite, en urgence, parce que une chose qui n'est jamais dite, mais qui est la base de tout, c'est que quand le CO2, le dioxyde de carbone, est émis dans l'atmosphère, il y reste 100 ans, 200 ans, 500 ans. Donc il y a un moment... Ou même si vous vous mettez à prendre de bonnes mesures, c'est trop tard.
Donc, c'est vraiment. Il y a déjà 100 ans de retard, oui, en quelque sorte.
C'est une lutte contre la montre. C'est ça qui est important.
Patrick ?
La baignoire est pleine, en quelque sorte. Vous parlez de pression
des opinions publiques, mais vous voyez bien aussi à quel point les intérêts des États eux-mêmes, ce que vous disiez Babette tout à l'heure, c'est-à-dire notamment de la Chine et de l'Inde. Pour l'Inde, il s'agit de rattraper un retard de développement qui reste à combler par rapport aux pays développés. Pour la Chine, c'est la volonté de devenir la première puissance mondiale, sans doute à l'horizon 2040 ou 2049.
On la voit mal accepter les contrôles.
Ils ne changeront pas de trajectoire, la Chine.
Bien sûr, il y a ces contraintes que vous dites. Mais, et puis, il y a quelque chose de fondamental qui est une critique qu'on peut faire à beaucoup, beaucoup de gouvernants. C'est qu'ils s'intéressent à ce qui est dans leur mandat en termes temporels, mais ce qui va se passer à 20 ans, 30 ans, 50 ans, beaucoup moins. Bon. L'essentiel du problème, vous avez raison de le dire, c'est en Asie. Et l'essentiel du problème, c'est le charbon. Et le charbon, c'est essentiellement en Asie. À la fois la Chine, l'Inde, d'autres pays, l'Indonésie.
Alors, il est dans le pacte de Glasgow, quand même.
Oui, oui. Non. Enfin, oui, j'écris oui, oui. O-U-A-I-S, parce que c'est là où il est intéressant de regarder les textes et pas simplement ce qu'on raconte. Bon, il est dit dans le texte de Glasgow qu'il y aura un effort pour réduire, et pas pour supprimer, les centrales à charbon, sauf celles qui permettent une captation du carbone. Et encore, selon les circonstances nationales. Alors, selon les circonstances nationales, il n'y a pas besoin d'être un spécialiste, on comprend ce que ça veut dire. Mais arrêtons-nous un instant sur un sujet vraiment précis. L'extraction du carbone. Bon, tous les modèles disent qu'à terme, on arrivera à s'en sortir, que si on extrait du carbone, c'est-à-dire soit on l'extrait, il existe déjà dans l'atmosphère, et donc on l'extrait, soit à la sortie des usines, usines de ciment, usines de ceci, usines de cela, on transforme le carbone en autre chose et on l'extrait. Mais technologiquement, moi, j'aime la technologie, je pense que c'est une des grandes solutions, mais aujourd'hui on ne sait pas le faire. La meilleure usine du monde, qui se trouve en Islande, produit, enfin extrait à son maximum, 3 secondes des émissions annuelles de carbone. Et le coût est le suivant. Il y a aussi une histoire de gros sous. En Europe, laissons de côté un instant la Chine et l'Inde, mais en Europe, quand vous émettez du carbone, vous êtes dans une usine, etc., ou bien c'est gratuit, ou bien vous avez à payer pour l'émission, ça coûte 60 euros la tonne. Pour extraire le CO2, ça coûte 500 euros la tonne.
Donc on a plus intérêt à payer des amendes qu'à investir.
Et donc, il y a un effort gigantesque à faire pour développer la technologie. Mais ce que je veux dire, c'est que, bien évidemment, ce qui se passera en Inde, ce qui se passera en Chine est décisif. Mais prenons l'exemple de l'Inde. Il faut les aider financièrement. C'est vrai aussi de l'Afrique. Comment voulez-vous que ces pays puissent avancer alors qu'ils n'auraient pas la technologie, pas les finances? Et l'un des gros problèmes de Glasgow, c'est que il y avait des engagements qui ont été pris, pas seulement avec l'accord de Paris, mais même bien avant, et qui ne sont pas respectés, pas respectés du tout. Et je trouve ça, le mot peut-être un peu fort dans ma bouche, mais je trouve ça scandaleux. Ça représente 100 milliards de dollars. Vous savez combien on a mis comme argent pour faire repartir l'économie compte tenu de la pandémie? 16 000 milliards de dollars. Et c'est pourquoi, lorsqu'il y a, je ne veux pas faire de démagogie, mais lorsqu'il y a des slogans qui disent « le climat, si c'était une banque, on l'aurait déjà sauvé », ce n'est pas totalement faux.
Ce n'est pas totalement faux.
100 milliards de dollars promis en 2009, pas respectés en 2021. Donc, il faut de la finance, il faut de la technologie, il faut de la pression, il faut du contrôle.
Est-ce que le président du Conseil constitutionnel compte les jours avant l'élection présidentielle d'avril prochain ?
Non, on ne compte pas les jours, mais on surveille tout ça, parce que notre rôle institutionnel, c'est pas seulement de contrôler la constitutionnalité des lois, mais c'est aussi de veiller à la régularité de l'élection présidentielle. Et donc, nous allons bientôt nous occuper des parrainages, puisque nous vérifions si ces parrainages sont corrects, etc. Nous aurons des délégués partout pour voir si l'élection est régulière. S'il y a des réclamations au sujet des résultats des élections, nous serons bien évidemment saisis, et c'est le président du Conseil constitutionnel, c'est-à-dire moi-même, qui proclamerait les résultats. Donc on s'occupe de ça activement, on va le faire encore plus à partir du début de l'année prochaine.
On est à 157 jours de l'élection présidentielle, du premier tour, et les attaques pleuvent contre le Conseil constitutionnel.
Vous croyez qu'il y a un rapport ?
Non. Dès le 16 septembre, Éric Zemmour, dans On est en direct sur France 2, évoquait son plan contre l'immigration.
Ce plan que j'ai en tête, et j'ai très clairement en tête, on ne peut l'appliquer que si on se débarrasse des contraintes juridiques de la Cour européenne des droits de l'homme, de la Cour de justice, du Conseil constitutionnel, et qu'on enlève en vérité... Aujourd'hui, on croit que la politique de l'immigration est une responsabilité de l'État. En fait, pas du tout. On l'a confiée depuis 40 ans aux immigrés. Et donc, il faut enlever ces droits automatiques qu'on leur a accordés pour reprendre la responsabilité de la politique de l'immigration.
On ne peut l'appliquer que si on se débarrasse des contraintes juridiques de la Cour européenne des droits de l'homme, de la Cour de justice et du Conseil constitutionnel. Se débarrasser, c'est assez clair, non ?
C'est modéré. Bon, deux, trois points. Il y a des critiques contre le Conseil constitutionnel depuis longtemps, mais elles redoublent en ce moment. Et je ne vais pas rentrer dans un débat électoral, ça n'aurait pas de sens. Mais il faut bien expliquer le travail qu'on fait. Bon. Dans toutes les démocraties, ce sont les parlementaires qui votent la loi. C'est très bien. Mais dans les démocraties, je dirais avancées ou supérieures, comme l'est la France, les lois doivent être conformes à un certain nombre de grands principes qu'on appelle l'état de droit. Alors, les grands principes, c'est la séparation des pouvoirs entre la justice, l'exécutif, le législatif. C'est la liberté de la presse, la liberté d'association. Et en France, les parlementaires votent la loi, c'est très bien, mais la loi doit être à l'intérieur de ces grands principes, qui s'appellent la Constitution.
Mais c'est que les candidats, un certain nombre de candidats veulent changer ces principes.
Oui, alors, j'y viens.
C'est ça, l'idée.
J'y viens. Il faut bien qu'il y ait une institution qui contrôle si les lois sont ou non conformes à ces grands principes. Et cette institution, c'est le Conseil constitutionnel, on nous appelle les sages, j'espère qu'on a raison de nous appeler ainsi. Mais nous ne prenons pas parti sur l'opportunité de telle ou telle loi, nous regardons si elle dépasse la ligne jaune ou pas. Bon, alors, effectivement, on peut dire...
On peut bouger la ligne jaune.
On peut modifier tel ou tel élément. Alors, s'il s'agit de la Constitution, on peut la réviser, bien sûr. Mais il faut la réviser selon les procédures prévues par la Constitution. Et s'il s'agit de grands traités internationaux, ou même de ce qui vraiment nous constitue, on parle du préambule de la Constitution 46, la Déclaration des droits de l'homme, etc., il y a évidemment des limites et nous sommes engagés sur la question, parce que c'est elle qui est posée le plus souvent, en particulier... du regroupement familial, de choses comme ça. Bon, y a des déclarations qui sont faites. Moi, j'ai regardé les textes. D'une part, dans le préambule de la Constitution 46, il y a des choses précises qui sont dites, et dans la Convention européenne des droits de l'homme. Bon, ça, ce sont des choses qui nous engagent. Alors, on peut modifier tel ou tel aspect, mais le principe même...
Le fondement même.
L'état de droit, ce qui fait ce que nous sommes, ça, c'est quelque chose qui constitue la France.
Il n'y a pas qu'Éric Zemmour.
C'est pas modifiable. Oui.
Pierre,
non, il n'y a pas qu'Éric Zemmour. Sur ce plateau, hier, oui. Michel Barnier, candidat à l'investiture Les Républicains, parlait de préparer une espèce de bouclier constitutionnel.
Il n'y a rien dans la Constitution française. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand il n'y a rien d'écrit ? Les différentes cours européennes font de la jurisprudence, qui est toujours, toujours, toujours favorable aux étrangers. Et nous, si nous voulons prendre des mesures très précises, on ne peut pas le faire sans être menacé ou sous la menace d'une annulation ou d'une décision. Donc, nous allons mettre dans ce bouclier constitutionnel cette capacité souveraine juridique de nous protéger. Voilà.
Je ne sais pas, bien sûr, là non plus, polémiquer avec tel ou tel, ça n'aurait pas de sens. Il y a des choses justes et des choses inexactes. La chose inexacte, c'est de dire que le Conseil prend toujours des décisions favorables aux étrangers. C'est complètement faux. Il n'y a encore pas si longtemps, dans une décision très importante sur la fraternité, nous avons dit, bon, les étrangers qui sont sur notre sol, il faut les soigner correctement, etc. Mais en revanche, pour savoir qui rentre ou qui ne rentre pas, ça, c'est une prérogative de l'État. Bon. En ce qui concerne tel ou tel aspect particulier, là encore... Il y a des choses qu'on peut modifier, mais les principes mêmes, on ne peut pas s'en extraire sous prétexte que ce serait aller dans le sens de ce qu'on pense être l'opinion. Donc je crois qu'il faut réexpliquer les choses. Oui, il y a certaines évolutions qui peuvent être faites, mais le fait que la France soit un État de... On peut modifier l'État du droit, mais l'État de droit, c'est-à-dire les principes, le fait que vous êtes libre, que votre émission peut se passer sans problème, qu'il n'y a pas quelqu'un qui vous appelle en disant « Madame, il faut faire ci », etc. Ça, c'est constitutif de la France et c'est protégé par les principes du droit.
Merci beaucoup, Laurent Fabius. Vous restez avec nous, on continue à évoquer l'actualité. C'est l'heure du 5 sur 5 de Mathieu Béliard. Ouais.
Bonsoir, Babette. Bonsoir à toutes et à tous.
Bonsoir, Mathieu.
Bonsoir. Ce soir, nous sommes à la frontière entre la Pologne et la Biélorussie.
Oui, aux confins de l'Union européenne, où Minsk a acheminé des réfugiés pour faire pression sur la frontière, ça vous le savez. Sur le terrain, la Pologne durcit le ton avec l'usage hier de gaz lacrymogène et de canons à eau pour repousser des migrants. Cette semaine, tous les soirs, nous allons retrouver nos envoyés spéciaux, Iban Raïs et Audrey Payas. Ils étaient ce matin dans la forêt près de la ville de Bachuri. 2 degrés, c'est la température ce matin sur le campement de réfugiés qui ont réussi à franchir la frontière avant de disparaître dans la précipitation à l'arrivée des forces de sécurité polonaises.
On est à quelques centaines de mètres, à quelques minutes de la frontière entre la Pologne et la Biélorussie. Cette frontière, elle se trouve derrière nous. Et encore aujourd'hui, il y a entre 2000 et 3000 migrants qui sont massés à cette frontière. Lorsque les migrants se cachent dans ces forêts, ils peuvent à tout moment être arrêtés par l'armée polonaise. Et quand c'est le cas, ils sont obligés de tout abandonner derrière eux. On trouve donc des sacs de vivres avec des bottes pour passer la nuit. On trouve aussi des gourdes et on trouve des vêtements chauds, déshydratés très souvent. Ils passent parfois plusieurs jours dans la forêt, parfois même sans chaussures. En s'approchant d'un petit peu plus près, on remarque donc des bouteilles d'eau, mais on remarque aussi une couche. On peut imaginer que cette nuit, une famille est passée par cette forêt pour tenter de relier l'Allemagne avec un enfant en bas âge.
C'est un jeu du chat et de la souris, des migrants qui parviennent à passer. Quand la police les attrape, ils sont reconduits côté biélorusse et ça se répète plusieurs fois, parfois sans jamais pouvoir demander l'asile. Nous partons à présent pour Podlipki, c'est à 50 km plus au nord. Nos envoyés spéciaux sont allés rencontrer l'une des associations qui vient en aide aux réfugiés, l'association Caritas.
I feel that all of the people should get any support that is needed. If you're frozen, if you are in need, you should have it. I will write on Facebook because many of my friends want help, but they don't know how. And I said it's like 10 euro for one package. So my friends started to send me on Blik, you know, like 10 euro, 10 euro, 10 euro. And I bought like 75 packages. So we brought some things that have some calories, you know, like, for example, rosins and nuts and the coat, some fish, because we don't know if they are eating meat.
This crisis bothers us on many different levels. And what we face while being here, I didn't understand it before, but now when I'm here on the place, at the border, I see that also the aspect of local community is very important.
Laurent Fabius, on parle de droit là, d'une zone où le droit s'applique au doigt mouillé avec des réfugiés qui n'ont même pas le droit de demander l'asile alors qu'ils sont entrés sur le territoire européen.
Oui, mais ce qui me frappe, je réagis comme ancien ministre des Affaires étrangères, c'est que ces réfugiés qui ne sont pas arrivés par hasard. C'est quelque chose qui est organisé. C'est organisé par le dictateur Loukachenko en liaison avec quelqu'un comme le dictateur Assad. Il y a des liens qui font qu'on se sert des Syriens, notamment, pour les envoyer à la frontière entre la Bélarus et la Pologne pour faire en sorte que les sanctions de l'Europe contre le Bélarus diminuent. Donc, c'est vraiment des opérations qui, humainement, sont épouvantables, mais qui, d'un point de vue moral, si je puis dire, de la part des gouvernants qui s'y prêtent, sont abjectes.
La question des migrants en Europe est la marque Décathlon qui s'invite dans le débat.
Oui, avec une initiative qui a surpris ce matin, ce kayak, ce bateau que vous allez voir, le magasin d'équipements sportifs le retire de ses rayons dans ses magasins de Calais et de Dunkerque Grande-Synthe pour ne pas voir l'embarcation servir à des traversées hasardeuses.
Kayaks ne seront plus mis en vente dans les rayons pour éviter que les migrants s'en servent.
Décathlon a décidé de retirer ses kayaks des rayons afin que les migrants ne les achètent plus pour traverser la Manche.
Une mesure qui fait beaucoup parler aujourd'hui dans ces magasins de Calais et de Grande-Synthe.
Une mesure prise pour la sécurité des migrants qui tentent parfois de traverser la Manche.
Ces derniers jours et ces dernières semaines, les sauveteurs en mer, que ce soit la SNSM ou les services de l'État, ont eu à secourir des migrants qui étaient à bord de ce type d'embarcation.
Les disparitions en mer se multiplient. 3 personnes la semaine dernière et précisément, on a retrouvé des kayaks à la dérive au large de Calais. Alors sur place, les élus de gauche comme de droite saluent la décision.
Je salue la décision de Decathlon hein, qui fait preuve d'humanisme puisque effectivement ils ont pris la décision de retirer de la vente les kayaks. Mais pour autant, encore une fois, je pense qu'on est plus sur les effets que sur les causes, malheureusement, parce que l'effet, voilà, c'est que les personnes passent avec des bateaux sommaires ou des kayaks. La cause, ben, c'est parce qu'il faut une vraie politique globale.
Je pense que Decathlon, je dirais, s'associe au fait de ne pas être associé ni à des passeurs, ni à des activistes, ni à des associatifs, est une bonne chose en soi.
Alors, précisons toutefois que les équipements de sécurité sont toujours vendus, gilets de sauvetage, protection thermique. Ce n'est pas la première fois que l'enseigne voit son activité aux prises avec des questions de société. Alors, on se souvient d'une vive polémique il y a 3 ans quand Decathlon avait voulu vendre un hijab de running pour pouvoir faire son jogging avec un voile. L'enseigne avait finalement renoncé. Plus récemment et moins sujet à débat, au Canada, Decathlon qui revisite le symbole handicap sur les places de parking. Là, vous le voyez à l'écran, le même cadre blanc, fond bleu, le fauteuil roulant, mais des raquettes de tennis, des arcs, des flèches ou des ballons de basket. J'allais dire ballon de rugby, mais je pense qu'au Canada, c'est un ballon de football américain. La marque affirme qu'il s'agit de montrer que le sport est accessible à tous.
Aujourd'hui, nous étions aussi au Congrès des maires de France.
Oui, c'est David Lisnard, le maire LR de Cannes, qui a été élu président de l'Association des maires de France. Il succède à François Barouin. Mais si nous nous sommes rendus au congrès aujourd'hui, c'est pour interroger les édiles sur un point précis. À 5 mois de la présidentielle, Louis Amar et Michaël Robert sont allés leur demander s'ils comptent donner leur parrainage, si cette course aux signatures ne les lasse pas et surtout s'il faut changer les règles.
Est-ce que vous avez accordé votre parrainage pour la prochaine présidentielle ?
Non, monsieur.
Non.
Toujours pas.
J'envisage de la donner, oui.
Pourquoi pas ?
Je tiens à garder ma neutralité.
On est harcelés sans arrêt et donc je ne donnerai pas mon parrainage.
Est-ce que vous êtes beaucoup sollicité ici au salon ?
Énormément.
Par qui, par exemple ?
On a vu beaucoup de petits candidats nous solliciter. C'est triste.
Pourquoi c'est triste ?
Parce que le système n'est pas bon.
Est-ce que c'est le rôle d'un maire de parrainer un candidat ? Je n'en suis pas certain.
Il faudrait changer le système, selon vous ?
Vraisemblablement. Ça, je suis plus favorable, effectivement, à ce que... Déjà, est-ce qu'il faut des parrainages ? C'est une première question, mais il faut revoir le système en tous les cas, oui.
Il faut revoir le système, monsieur Fabius ?
Écoutez, le système existe, on l'a déjà appliqué. Ce qui n'est pas ajouté, c'est que les parrainages sont publics. Et souvent, c'est une des raisons qui...
Ce qui n'a pas toujours été le cas.
Ce qui n'a pas toujours été le cas, mais en tout cas, à la dernière élection, à l'élection précédente, c'était le cas. Et du coup, c'est un des éléments qui, à la fois, est compréhensible, parce que ce n'est pas un geste qu'on fait en catimini, mais qui bloque un certain nombre d'élus. Le problème, moi, mon rôle en tant que président du Conseil constitutionnel, c'est simplement de vérifier si les parrainages sont corrects juridiquement, etc. Mais votre question, c'est au-delà. C'est est-ce qu'il y aurait un autre système ? Les autres systèmes, ou bien alors tout le monde peut se présenter, mais vous voyez bien la conséquence que ça a, ou bien alors un certain nombre de formations politiques disent mais il faudrait que ce soit plutôt les citoyens qui puissent intervenir. Il faudra un certain nombre. Combien ? Est-ce que c'est 100 000, 200 000, 3 millions, 5 millions ? S'il n'y a pas de système merveilleux. En tout cas, moi, mon rôle, c'est, la loi étant ce qu'elle est actuellement, de vérifier que les parrainages sont conformes et arrivent
en temps et en heure.
Coup de chance, ce matin, devant le Congrès, devant la caméra de C'est à vous, un candidat passait par là à la recherche de parrainage.
Oh mon coco, ça va.
Bonjour monsieur le maire.
Comment ça va ?
Et vous ?
Je salue mon candidat.
C'est votre candidat ?
Ah oui, c'est mon candidat.
Ce salon pour vous, c'est l'occasion de venir chercher des parrainages ?
Oui, mais tu vois, j'arrive à midi, hein. Donc j'arrive quand je peux.
Et ça marche la pêche au parrainage ?
Oui, c'est pas mal. Je suis comme la dernière fois.
C'est-à-dire à combien ?
Là, j'ai dépassé les 300. Je suis à 300. Faut pas dire trop parce que, après, sinon, les maires, parce qu'ils sont très difficiles, les maires, cette année. Ils disent, bon, lui, il est sauvé, c'est pas la peine qu'on le parraine.
Pourquoi ils sont difficiles cette année particulièrement ?
Il y a plus que 30% des Français qui votent. J'aurais presque entendu tendance à dire qu'il y a plus que 30% des maires qui parrainent.
Alors j'en reviens au Congrès, un rendez-vous très politique chaque année. Alors vous vous souvenez évidemment de l'automne 2017, Emmanuel Macron y avait été sifflé, hué par des maires qui avaient peu goûté la suppression de la taxe d'habitation. Depuis, il y a eu les Gilets jaunes, le grand débat, la pandémie, le président sera au Congrès demain, mais il reçoit des maires ce soir à l'Élysée. On a aussi voulu leur demander si les maires et le président étaient réconciliés.
Je pense que le président de la République ne connaissait pas du tout les élus.
La relation avec les maires a été compliquée, il les a négligés en début de mandat et il s'est aperçu à la faveur de la Covid que les maires avaient joué un rôle déterminant.
Alors on a vécu la crise du Covid et on a eu quand même le sentiment d'être un peu abandonnés, les maires, nous, des petites communes.
Par le fait qu'il y a eu l'épisode Covid, je pense que c'est il y a une note d'inachevé, je dirais.
Il y a eu la crise des Gilets jaunes, il y a eu le grand débat et honnêtement je trouve que les relations sont apaisées entre le pouvoir et les élus locaux.
Emmanuel Macron s'y rend demain, je vous l'ai dit, les maires qui sont reçus en ce moment.
Donc le dîner va bien se passer à l'Élysée.
On va voir, on va surveiller.
Depuis plus de 50 ans, il baroude aux quatre coins du monde, globetrotteur, nomade, chanteur et reporter aussi.
Bernard Lavillier est de passage à Paris. Ce touriste professionnel est à Paris à la Villette. Vous aimez bien qu'on vous considère comme un nomade, non ?
J'en suis un, c'est pas être considéré comme... Je fais pas que me balader, quoi. Touriste, ça me plaît pas trop. Non, je travaille, j'écris, je veux dire... J'écris, je travaille avec des musiciens sur place et c'est beaucoup plus intéressant pour moi, excitant, sur le plan journalistique, tiens, puisque je suis avec vous. Le tourisme, pour moi, c'est un côté Bermuda à fleurs, un peu.
Mais non, vous voyez, vous avez une idée fausse du tourisme. Il y a des touristes, ça veut dire des gens qui ne restent pas, pour moi.
Bonsoir Bernard Lavillier.
Bonsoir.
Merci de votre présence. On est très heureux de vous accueillir à l'occasion de votre 22e album, le magnifique et poétique Sous un soleil énorme, fruit de l'un de vos nouveaux reportages, le dernier en date, l'Argentine. Vous deviez y passer 15 jours, vous y êtes resté
3 mois.
À votre arrivée, vous ne connaissiez personne, mais c'est votre truc, vous infiltrez entre être en immersion, embedded, comme on dit chez les journalistes.
Pas terrible ça, franchement.
C'est votre truc, ça, vous infiltrez, vous arpentez les villes de long en large, oui. Vous humez l'air et vous faites votre nid.
Oui, je ne connais personne. Et puis, je me confronte à la ville, je me mélange avec elle. Buenos Aires, je connais très bien toute l'Amérique latine, hein, et toute l'Asie du Sud-Est, enfin plein de choses. Et je n'ai jamais voulu y aller en me disant, je vais garder ça pour un moment donné, parce que je connaissais plein d'Argentins, et au Brésil, et à New York, et à Paris, ce sont des gens très différents des autres latinos. Très différents. Alors je me suis dit, bon, je me réserve pour un moment, je vais partir sans aucun a priori, à part quelques notes de tango de Piazzolla, et un certain truc qui s'appelle le rock'n'roll argentin, qui est quand même copieux. Si, si.
Et vous vous êtes bien démerdé, parce que vous parliez peu, voire pas du tout, l'espagnol.
Non, je parle portoniol.
J'aime bien ce néologisme.
J'ai appris les Argentins, mais au Brésil. Donc effectivement, je mélange. Quand je ne trouve pas un mot en espagnol, je le dis en portugais. Mais en Amérique latine, ça marche. Tout le monde parle un peu portugnol.
Et Buenos Aires a influencé la couleur des 11 morceaux de cet album. Les arrangements sont délicats. Les trompettes, les percussions, les chœurs en espagnol, c'est magnifique. On en parle longuement avec vous, cher Bernard. Juste le temps de remercier Laurent Fabius et Gilles Pialoux d'être venus ce soir sur le plateau de C'est à vous. Julien Bugier sera également notre invité. Et puis il y aura Le Vu, la story média de Mohamed Bouassi, l'œil de Pierre qui nous fait découvrir un tableau de Gainsbourg. Et puis les actualités de Bertrand Chamerois. À tout de suite, on vous attend avec Bernard Lavillier.